Vous faites un film sur Barbara ou vous faites un film sur vous?
I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect.
C'est la première femme que j'ai aimée, elle s'appelait Nathalie. Et je lui ai donné rendez-vous à Gare Saint-Lazare, 20 ans après. Et quand je l'ai vue descendre, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu mon dos de lâche partir en courant, quoi.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la troisième édition du festival de cinéma SoFilm Summer Camp qui s'est tenu en juillet dernier à Nantes. Aussi, je vous en propose une brève traversée avec l'acteur Samir Ghesmi, invité du festival, et Raphaël Clairfond, rédacteur en chef adjoint du magazine SoFilm.
Depuis quelques temps, je commence à vraiment m'intéresser au cinéma. Du coup, je me suis dit c'est l'occasion de rencontrer des gens, de voir des films, de voir un peu plein d'événements autour du cinéma, notamment des conférences et des lectures. Et donc, voilà. Comme je suis nantaise et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient gratuites, je me suis dit, autant y aller.
Pourquoi je reste acteur aujourd'hui?
Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te transcende dans ce métier? Samir Ghesmi.
Déjà... Ce qui me motive, j'aime bien la question, à défaut de savoir pourquoi on fait ça, mais pourquoi on continue de le faire. Tu fais ça, peut-être, après c'est des réponses un peu galvaudées, pas très originales, mais pour exister, pour agiter sa main, dire on est là, on est là, on est là, et après, une fois que cette pulsion un peu primaire est passée, tu te rends compte que tu rencontres, notamment au théâtre, des textes, des auteurs, des gens qui arrivent à formuler, à mettre en mots tes fantômes, ce qui te traverse, ce qui est douloureux pour toi à exprimer. Et ça te fait tenir. Comment des auteurs te remplissent? Comment tes auteurs te donnent de l'air dans ta vie? Comment ils donnent de l'espoir? Voilà. Et moi, tant que j'ai ça, tant que j'arrive à être accompagné et puis nourri par des auteurs, la vie m'est plus supportable.
Qu'est-ce qui fait que tu acceptes un projet? Tes projets sont assez différents. Tu vas vers des cinéastes assez différents. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller vers un projet? Tout à l'heure, Vincent Lindon, dans sa masterclass, il disait qu'il allait vers un projet pour l'histoire. Toi, c'est quoi qui te fait accepter un projet?
Il a dit ça. Moi, j'ai bien envie de dire le contraire de lui. Pas pour dire le contraire, mais parce que l'histoire, finalement, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous un peu. Même s'il faut une bonne histoire pour faire un film, quand je dis je m'en fous, c'est l'univers qui m'importe, en fait. Et l'univers, c'est l'auteur. Et l'auteur, c'est souvent le réalisateur. Et si le réalisateur arrive à m'emmener dans un endroit que je ne connais pas, inconnu, où je vais avoir le sentiment de découvrir et d'y aller comme un découvreur, je ne sais pas comment on dit, pas un conquérant parce que j'aime pas les conquêtes, mais
un explorateur.
Un explorateur, exactement. Et ben ça me plaît, en fait. Mais l'histoire, franchement, c'est secondaire pour moi. C'est vraiment aller à des endroits que je ne connais pas.
Tu as réalisé un court-métrage. Alors, rappelle-moi le titre.
C'est dimanche.
C'est dimanche.
Ouais.
Alors, j'ai fait des recherches. Je ne l'ai pas retrouvé gratuit sur Internet. Mais j'ai vu un court extrait. Et j'ai vu cet extrait. Donc, voilà, cette scène où le gamin donc fait croire à son père qu'il a été diplômé. Et donc voilà, il l'emmène voir un monsieur qui, parce que son père ne sait pas lire le français, et voilà, où il fait croire que. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient cette. Je raconte très mal, hein, mais
non,
d'où vient cette histoire? Où est-ce que tu es allé la chercher?
Écoute, si j'ai raconté cette histoire, c'est aussi, Mais le cinéma et raconter des histoires, ça permet de se planquer derrière. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de... Je trouve ça... Il ne s'agit pas de ne pas répondre à ta question, mais je trouve ça moins intéressant de savoir si c'est une histoire qu'on a vécue ou pas. Moi, la pudeur me fait dire que je préfère raconter cette histoire et je préfère me cacher derrière un stylo, un clavier, une caméra, que de raconter ma vie, en fait. Là, en ce moment, l'époque, elle est à montrer sa vie, l'étaler, raconter dans les réseaux sociaux, raconter ce qu'on bouffe, ce qu'on boit, où on va, les vacances qu'on prend, les amis qu'on a, montrer ses enfants, sa femme, son homme. Et je trouve qu'il y a... Moi, il y a un endroit... Enfin, il ne s'agit pas d'être sectaire, hein, mais moi, ça me gêne un peu. Ça, je ne sais pas pourquoi ça me gêne. En fait, ce qui me gêne, c'est le manque de mystère. En fait, et tout est étalé comme ça. Ça doit certainement faire du bien à ceux qui le font, mais... Moi, je me sens un peu voyeur et j'aime pas, en fait. Après, pour répondre à ta question, on s'en fout de savoir d'où elle vient, cette histoire, non?
Est-ce que tu voudrais écrire une plus longue histoire?
C'est fait, c'est parti en recherche de pognon. J'ai un producteur et je croise les doigts. C'est le projet phare là, de ma vie. Là. C'est
de ta vie?
Ouais, de mon existence, c'est devant mon nez là, et c'est ce que je vise en fait depuis un long moment. Après, c'est dimanche, le titre du court-métrage, il y a eu du temps qui s'est passé, et puis j'ai écrit cette histoire là, que j'ai fini d'écrire, j'espère, il y a quelques jours d'ailleurs, quelques semaines même, et qui est parti en financement. Donc j'espère avoir des suites favorables et raconter le long métrage.
Dans les grandes lignes, ça parle de quoi?
Ouais, c'est toujours ce gamin avec son père. Voilà, je t'en dirai pas plus parce que par superstition, mais voilà, je restais toujours dans la même veine que le court-métrage.
Et en tant que comédien, on en parlait rapidement tout à l'heure, est-ce que t'as un rêve particulier de comédien? Il y a un rêve secret vraiment, une envie secrète, peut-être ou moins secrète, de tourner avec quelqu'un.
Ah, avec quelqu'un. Il y a plein de gens avec qui j'ai envie de tourner. Mais surtout d'abord le rêve, quoi. Ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on continue de... Que le désir continue d'être là pour moi et moi pour ce travail, pour que ça... Enfin, pourvu que ça dure, quoi, j'ai envie de dire. Ça dure le plus longtemps possible, que je puisse continuer à jouer et rencontrer des gens formidables et me laisser surprendre, quoi. Enfin, tu vois, continuer, pas tomber dans l'habitude ou dans le fonctionnariat. Enfin, voilà, continuer à rester toujours curieux et que l'envie reste, quoi, soit intacte.
Et juste une petite dernière question, est-ce que des metteurs en scène, donc je pense à Noé Milowski, à Solveig Anspach, à Desplechin, est-ce qu'ils t'ont dit, pourquoi est-ce qu'ils te désiraient?
Oh, le parce que, non, moi je le demande pas. Franchement, c'est pas une manière de ne pas répondre à ta question. Hein. C'est compliqué de poser la question et c'est compliqué de l'entendre quand on commence à te le dire. Parce que moi, je crois qu'on ne sait pas ça. On ne sait pas pourquoi on fait appel à moi ou pas appel à moi. Et moi, je ne sais pas si dans le fond, j'ai envie de savoir. Parce que pourquoi on aime les gens, pourquoi on a envie de travailler avec eux. En fait, il ne s'agirait pas de savoir pourquoi, pour pas que je m'en serve ensuite et que ça devienne bidon. Peut-être qu'il ne faut pas savoir.
Yeah, well, I need to go home and take it slow down in Jackson, Texas. see. Let me tell you, city living ain't a home. It is cracked up to be. Bad city living ain't a home. It is cracked up to be. You see, I need to go home and slow down in Jackson, Tennessee.
Félicité, dernièrement, d'Alain Gomis. Il y a Le Trou de Jacques Becker, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps. Il y a Tukibuki que j'ai vu tout à l'heure. Il y a Taxi Driver, j'en oublie plein. Il y a quoi encore? Il y a Dolce Vita, il y a Fish Tank, il y a les films de Kiarostami, Le Passager, Le Goût de la Cerise, il y a Mac Baltaf. Je sais pas, il y a Ken Loach, il y en a plein, quoi.
Et là-dedans, il n'y en a pas un que tu vas...
Ah si, il y aura peut-être... Il y a peut-être les 400 coups, en fait. Ouais, le truc. Ouais, il y a peut-être les 400 coups. Mais il y en a plein d'autres qui arrivent à côté, hein. Plein. Hein. Mais les 400 coups, je dois avouer que je dois regarder. Et puis il y a Chaplin aussi. Non, mais il y en a plein.
Ouais, ils sont chiants et...
Ouais.
Merci beaucoup, Samir.
Non, merci, Salima. C'est cool.
Et puis, je voudrais quitter l'école pour gagner ma vie tout seul.
They will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste fucking good.
Raphaël Clairfond.
Moi, je suis directeur en chef adjoint du magazine depuis quelques années et je m'occupe entre autres, pour le magazine et pour le festival, de la communication, des réseaux sociaux, et on participe autant que faire se peut avec mes collègues à la programmation, aux invités, essayer de trouver des gens, trouver des bons films Et voilà, donc on essaye de faire en sorte que le festival soit le plus fidèle possible à l'esprit du magazine. Donc cinéphilie, un peu d'humour, de décontraction et de l'humain, de la rencontre, sans étiquette et sans prise de tête.
Alors là, c'est la troisième édition du festival. Par rapport à la première, on va dire, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été modifié dans la ligne de programmation ou d'organisation du festival?
Alors, je pense que la ligne globale n'a pas changé. C'est toujours le même principe avec des avant-premières cannoises prestigieuses, des cartes blanches cinéphiles à des invités qui sont là sans hors promotion, etc. Vraiment à la cool. Et également une masterclass de prestige. Donc on avait John McTiernan l'année dernière, cette année c'est Vincent Lindon. On est très contents et je pense que justement pour un festival qui commence, l'important c'est d'imprimer une marque, une identité et de la consolider. Donc là au bout de 3 ans, je pense que les gens qui sont déjà venus et qui reviennent ont bien compris quel était l'état d'esprit, ce qu'on avait envie de faire, et s'ils reviennent c'est qu'a priori ils s'y retrouvent d'une manière ou d'une autre. Et après, l'innovation la plus importante, c'est le développement depuis l'année dernière des résidences pour développer le cinéma de genre. Donc c'est plutôt à vocation professionnelle. Donc c'est le magazine qui a lancé ces résidences là, qui s'appelle donc Sofilm de genre, avec le CNC, Canal+, Wild Bunch, etc. dont l'idée est d'accompagner des projets de cinéma de genre en France du début à la fin, en mettant notamment en relation le plus tôt possible la post-production et l'écriture et le storyboard, parce que dans les films de genre en général, la post-production notamment est très importante. Donc l'idée c'est que tout ça travaille de la manière la plus efficiente possible. Donc ça a commencé l'année dernière avec des lectures en musique et en images pour les projets de court-métrage qui sont en train de se tourner. Et on commence maintenant les résidences pour les longs-métrages. Et donc il y a une quinzaine ou une vingtaine de projets qui ont été sélectionnés. Et donc il y avait des lectures d'extraits, etc. Et donc l'idée c'est que à côté de notre passion pour la cinéphilie, les films de patrimoine, on accompagne aussi les films à venir, les films qui commencent à se faire, qui vont se faire, et que les jeunes professionnels, les jeunes scénaristes, les jeunes réalisateurs soient là pour défendre leurs projets et côtoient Bernard Ménez, Vincent Lindon, qui sont là. Pour présenter les films.
Et par rapport à votre premier coup d'essai en 2015, qu'est-ce que vous avez pas retenu ?
Qu'est-ce qu'on a pas retenu ?
Qu'est-ce qui a foiré ?
Franchement, je crois pas qu'il y ait des choses qui aient vraiment foiré. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours l'important pour nous, c'est d'essayer d'arriver à faire en sorte que même les séances les moins évidentes, les moins faciles d'accès en apparence, soit parce que le film est plus raide, soit parce que, je sais pas, pour X ou Y raison, l'idée c'est qu'on essaye de faire en sorte que, autant que possible, les salles soient remplies. Et donc ça c'est un vrai travail de programmation pour arriver à placer les bons films dans la bonne salle au bon moment, de manière à ce qu'un film plus porteur ne cannibalise pas, ne tue pas la projection des autres. Donc ça c'est vraiment un délicat exercice de dosage et aussi de communication sur toutes ces séances-là qu'on essaie d'affiner avec le programmateur. Quoi.
Là, la masterclass était donnée par Vincent Lindon. Pourquoi Vincent Lindon ?
Alors, pourquoi Vincent Lindon ? Parce que Vincent Lindon, notamment, et outre le fait qu'il soit en passe de devenir un monument du cinéma français, s'il ne l'est pas déjà, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour son franc-parler. Et on l'a vérifié pendant la masterclass. Là, pour le coup, en termes de franc-parler, on a vraiment été servi. Il est à la fois très sympathique, il a un regard assez fin sur son travail et sur le monde dans lequel il vit. Et en plus, il est très drôle et il a un contact humain qui est très simple. Et ce contact humain-là simple, c'est ce qu'on cherche à défendre et à valoriser dans le cadre du festival. Donc pour nous, c'était l'invité parfait.
Donc vous êtes principalement la rédaction Sofilm et à Paris. Quelles ont été les retombées, on va dire, les échos du festival vers la centrale, on va dire.
La centrale.
Vers Paris.
Bah,
je parle en décentralisation.
Bah, ceux qui viennent au festival, qui sont parisiens ou d'ailleurs, en général ne rentrent pas déçus, voire plutôt enthousiastes, et donc on en parle. Après, voilà, c'est pas forcément le fait de faire le festival qui va tripler notre notoriété en France ou les ventes du magazine, mais ça contribue à développer un état d'esprit sous d'autres formes et sous une forme vivante et dans le contact humain, quoi. Et donc ça, effectivement, entre la première et la troisième année, on voit de plus en plus. Moi-même, j'ai même des amis qui savent que je travaille à ce film, mais qui sont pas forcément, qui travaillent pas dans le cinéma ou qui sont pas journalistes, et qui ont décidé de venir parce que d'autres potes à eux étaient venus l'année dernière et ils ont dit ah c'est super cool machin. Donc voilà, l'idée c'est aussi qu'on essaie de faire venir le plus possible, autant que possible, des gens qui sont pas forcément sur Nantes.
Et quelles sont les retombées des spectateurs nantais, des locaux nantais sur le festival? Quel retour est-ce que vous avez?
C'est très facile, il suffit d'aller poser la question aux gens qui sont dehors en train de profiter du barbecue. Je ne peux pas parler au nom de...
Mais est-ce que vous avez des retours directs?
On a des retours très positifs, oui, effectivement. Tous les gens à qui je parle chaque année... Non, plutôt que de bonnes choses à dire sur le festival. Et même de la part de Jean-Marc Hérault, qui est venu à l'ouverture, qui était là avec Vincent Lindon tout à l'heure, de la part de la maire de Nantes, qui a encore là tweeté en expliquant que le festival était à l'image de ce qu'elle voulait pour la culture, c'est-à-dire une culture populaire, décalée, ouverte à tous. Et voilà, donc je pense que... J'espère et je pense que les Nantais sont contents de venir.
Est-ce que depuis 3 ans que le festival existe, enfin 3 ans cette année, est-ce que ça a grossi est-ce que économiquement, est-ce que ça a grossi? Est-ce que vous vous permettez plus de choses? Est-ce que vous sentez qu'il y a une importance grandissante économiquement?
Économiquement, nous, on a toujours aimé faire les choses vite, bien et avec des budgets. Même si on n'a pas des gros budgets, on essaie de faire les choses. La première édition, le festival s'est vraiment fait monter en 3 mois avec vraiment un budget, mais je pense ridicule à l'échelle de n'importe quel festival de cinéma en France. Là, j'ai pas les mains dans les budgets. Je pense qu'on a un peu plus de moyens, mais c'est pas non plus délirant. Et de toute façon, l'idée c'est pas de faire d'argent. Enfin, on n'est pas là pour le business entre guillemets, on est là pour organiser des choses qui nous font plaisir et qui font plaisir aux autres.
Pour la 4e édition, est-ce que vous y pensez déjà et qu'est-ce que vous espérez surtout d'ici la 5e édition?
C'est très simple, on peut espérer continuer à faire grimper la fréquentation. Je crois que la première année devait y avoir autour de 5000 personnes, 5000 spectateurs. La deuxième année, on tournait plutôt autour de 10 000. On avait vraiment fait un gros saut. Là, je ne sais pas à combien on est, mais l'idée, voilà, c'est qu'on ait de plus en plus de monde qui viennent, des invités toujours plus prestigieux. Là, par exemple, cette année, on n'a pas d'invité américain comme on a pu avoir John McCain l'année dernière, mais on a Vincent Lindon qui est formidable aussi. Donc l'idée, c'est aussi d'arriver à inviter pas que des Américains, mais aussi autant que possible des réalisateurs, des acteurs, des actrices d'autres pays européens, enfin du monde entier. Et ça, bon, pour l'instant, il y en a un peu, mais c'est, les invités restent quand même fortement dominantes françaises. Et donc, idéalement, effectivement, on aimerait avoir plus d'invités des quatre coins du monde, quoi. Mais ça passera par une organisation dès la rentrée de septembre pour inviter les gens assez tôt, vraiment présenter le festival, parce que du coup les étrangers ne connaissent pas forcément le magazine ou Nantes ou le festival. Donc il y a vraiment un travail d'introduction, de présentation de l'état d'esprit pour vraiment donner envie aux gens de venir et voilà.
Toi, qui fait partie de la qui œuvre pour la programmation du festival, est-ce qu'il y a une personne que tu veux au festival? Vraiment, tu t'accroches, oui. Tu lâches rien.
Bah moi, il y a Jerzy Skolimowski que j'avais longuement interviewé pour le magazine, qu'on a invité là les 2 dernières années à chaque fois, il pouvait malheureusement pas. Donc on le réinvitera l'année prochaine en espérant que cette fois-ci il se libère. Et à titre personnel, c'est vrai que je nourris une grande passion, une grande admiration pour Robert Tremblier, Donc si on pouvait avoir une masterclass de Bertrand Blier un jour, je serais extrêmement, extrêmement heureux.
Ouais, moi aussi. Et je vais te poser, pour terminer, je vais te poser la question que je t'ai posée il y a 2 ans, que je vais te reposer. Je vais voir si c'est la même réponse. Quel est le film de ta vie, Raphaël?
Ah, c'est compliqué. C'est marrant, on jouait un peu ce jeu-là à table l'autre jour. Et je crois que je serais un peu obligé de dire La Jetée de Chris Marker, qui est pourtant un film sans image animée, mais qui est pour moi un des films matriciel, quoi. C'est un tout petit film, c'est très simple, et en même temps ça a révolutionné la manière de concevoir le cinéma et un degré d'émotion de spectateur pur. Moi, ça me bouleverse à chaque fois que je le revois, et comme il dure une demi-heure, c'est très facile de le revoir, donc je pense que ce serait La Jetée.
Parce qu'il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, tu m'avais répondu Oncle Boomin de Vera Setacul.
Et bah, je pense qu'il y a quelque chose de La Jetée qui traverse aussi un peu le cinéma de Pichatpong Vera Setacul. Donc c'est pas forcément absurde, mais oui, Oncle Boomin compte toujours beaucoup aussi dans mon cœur.
Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à vous.
Jeff Costello, personnage central d'une intrigue dramatique, a-t-il encore des amis?
Voilà.
C'était ok.
Merci beaucoup.
Merci, mais de rien.
Je vous invite à laisser la place parce qu'il y a
d'autres candidats. D'accord. Voilà. Mais merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vais me retrouver chez vous.
C'était une brève traversée du festival SOFIM Summer Camp. Merci à Samir Ghesmi et Raphaël Clairfond. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast avec ses références filmiques et musicales. Merci de votre écoute et à bientôt sur Alternante.
Marielle essayait de comprendre. Elle vivait dans une famille tranquille, équilibrée, sans problème, où nous faisions tout pour son bonheur. Et tout à coup, elle apprend qu'elle vient de ce milieu sordide, toute cette bêtise, cette crasse, cette mère répugnante, les frères et les sœurs tous plus débiles les uns que les autres. C'est un cauchemar, ce moulin de la Vierge! Nous devons l'entourer de toute notre tendresse et notre amour. Soyons patients.